Vous écoutez, on lit pour vous.
Devriez-vous laisser votre enfant choisir ses vêtements? Un texte de Monique Nadon, psychologue retraitée, paru le 27 août 2023 dans La Presse. Du tout petit qui veut porter ses souliers propres pour jouer dehors à l'ado qui ne va pas sortir comme ça, le choix d'une tenue vestimentaire entraîne parfois d'épineuses conversations. Et si c'était finalement une excellente chose? Voici quelques observations et conseils à ce sujet de Monique Nadon, psychologue retraitée. Enfant, développer l'autonomie et la confiance en soi. Progressivement, vous pouvez proposer différentes options à votre enfant. Invitez-le de préférence à choisir ses vêtements en soirée pour le lendemain afin d'éviter les longues discussions pendant la routine du matin. Jupe ou pantalon? Cet ensemble-ci ou celui-là? Quelle couleur a-t-il envie de porter? Ces petites décisions simples en apparence l'aideront à devenir autonome. L'autonomie, c'est savoir ce qu'on veut et l'exprimer correctement avec la bonne attitude. Choisir amène l'enfant à développer cette capacité qui s'applique ensuite à plein de choses, comme les jeux. L'enfant qui reçoit des compliments sur son apparence pendant la journée se sentira valorisé dans ses choix. Inversement, quand un vêtement inapproprié pose réellement problème, de fragiles souliers de ballerine qui pourraient s'abîmer en jouant à l'extérieur, par exemple, expliquez-le à votre jeune pour l'aider à comprendre et prenez la décision finale. S'il s'agit plutôt d'une question de goût ou d'inconfort mineur, laisser l'enfant en subir les conséquences l'aidera à en tirer des leçons. Porter une camisole en plein hiver semble être une mauvaise idée au départ. Glissez une veste dans le sac d'école de votre jeune comme plan B. Pré-ado, apprendre à argumenter. Lorsque votre enfant jouit d'une plus grande liberté, vous pourriez commenter ou remettre en question certains de ses choix. Il lui revient alors de présenter des arguments pour faire valoir son point de vue. Vous laisserez-vous convaincre? Ou préférez-vous fournir de meilleures explications pour justifier pourquoi c'est non? Argumenter et s'adapter, ça se développe. Un refus enseigne à l'enfant qu'il doit formuler de meilleures idées pour obtenir ce qu'il veut. Cela demeure bénéfique d'expliquer les conséquences d'un choix à votre jeune et, quand ce n'est pas si important, de le laisser apprendre par lui-même. Peut-être qu'en contrevenant au règlement de son école, il ou elle aura une retenue ou devra porter le T-shirt de la honte. Vous savez ce vêtement trop grand qu'imposent certains établissements aux élèves dont la tenue est jugée inappropriée. C'est malheureux, certes. Mais est-ce si grave que cela? Adolescent, faire évoluer le milieu. Si l'ado est en désaccord avec un règlement de son école concernant l'habillement, est-ce que d'autres camarades partagent son avis? Plutôt que de laisser votre jeune choisir la confrontation comme première solution, vous pouvez l'encourager à développer et présenter un projet rassembleur par des moyens officiels. Pensons ici au mouvement « Je porte la jupe », par exemple, auquel plusieurs garçons ont pris part afin de dénoncer le code vestimentaire genré de leur établissement. L'élève peut discuter de son idée auprès d'un intervenant ou d'une enseignante de l'école et se renseigner sur la meilleure façon de procéder pour la faire accepter par la direction. Exprimer son individualité. Des cheveux de couleur, des perçages corporels, une tenue qui choque l'entourage. De tels choix reflètent le caractère de votre ado et sa vision unique du monde. Ça me semble bien de voir qu'une jeune personne s'affranchit d'une société où l'on se plie souvent aux idées des autres, estime Monique Nadon. Même si vous pouvez vous sentir coupable ou craindre le jugement des gens sur la façon dont vous encouragez votre enfant à cheminer par soi-même, faire preuve d'ouverture protège quelque chose d'encore plus précieux. Le plus important, c'est de conserver la relation avec votre enfant à tout prix. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de couper les ponts pour deux chaussettes dépareillées? C'était « Devriez-vous laisser votre enfant choisir ses vêtements? » un texte de Monique Nadon, psychologue retraitée, paru le 27 août 2023 dans La Presse.
Pour chaque plant qu'on plante, ils en coupent 1000. Un texte de Valérie Simard, paru le 22 septembre 2025 dans La Presse. Appuyé par des organisations environnementales, un citoyen de Boucherville appelle le ministère des Transports et les municipalités à revoir leur calendrier de tonte pour tenir compte de la protection des papillons monarques. Pour chaque plant qu'on plante, ils en coupent 1000, dénonce Roger Giraldo. Le 22 juillet 2025, un chant de désolation attendait M. Giraldo à la sortie 17, boulevard Marie-Victorin de la route 132 à Boucherville. Un espace vert où poussent un grand nombre d'asclépiades, plantes essentielles à la reproduction des papillons monarques, avait été fauché. Patrouilleur bénévole à la Fondation David Suzuki, il parcourt le territoire de Boucherville chaque jour de l'été pour recueillir les œufs de monarques qu'il sait menacés par la faucheuse. Cette année, sur ce terrain, il n'a pu en sauver que 6. « Je suis revenu le lendemain, c'était tout fauché », déplore-t-il. Il ne comprend pas ce qui justifie la tonte de ce terrain, sur lequel il a recensé principalement des asclépiades, de la renouée amphibie, du cerfeuil sauvage et très peu d'herbes à poux. D'autant plus que de l'autre côté de la bretelle de sortie, un îlot a été laissé intact. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, a laissé cette parcelle en état à la suite d'une demande de la ville de Boucherville. La demande ne concernait pas l'autre îlot, ce qui explique qu'il a fait l'objet d'une tonte complète. Je comprends qu'il y a des endroits où c'est nécessaire de faucher, mais pas systématiquement, dit M. Giraldo. Ne pourrait-on pas attendre en octobre, au moment où les papillons entament leur migration vers le Mexique? Roger Giraldo ajoute qu'il trouve décourageant que des citoyens comme lui travaillent à planter des asclépiades, tandis que de nombreux plants sont coupés. Le ministère se défend. Le MTMD se défend de ne pas tenir compte de la protection des monarques et autres insectes pollinisateurs dans la planification de ses opérations et d'y appliquer le concept de gestion écologique de la végétation. De façon générale, il y a une préoccupation au sein du ministère pour s'assurer d'un équilibre avec l'environnement, soutient le porte-parole du MTMD, Nicolas Vigneault. On a un souci de laisser une certaine végétation. On ne rase pas tout. Il cite en exemple l'entretien des talus qui se résume à un fauchage annuel tard à l'automne. Cependant, selon les normes du ministère, 2 ou 3 tontes peuvent avoir lieu au cours de l'été afin d'assurer la visibilité des automobilistes, de contrôler l'herbe à poux et certaines plantes envahissantes et d'améliorer l'esthétique. C'est le cas dans plusieurs bretelles d'entrée et de sortie, ainsi qu'en bordure de route, où une bande allant de 1,5 à 3 mètres doit être dégagée. Il y a un aspect sécurité routière qu'on est tenu de respecter, argue M. Vigneault. Il ajoute que le ministère ne peut faire un inventaire de tous les sites de reproduction du monarque aux abords des routes, mais que si une demande lui est transmise, elle sera considérée. Un rôle essentiel. L'asclépiade joue un rôle essentiel dans la survie des monarques. Les femelles y pondent leurs œufs et les chenilles s'en nourrissent. Le fauchage en été, sur les bords de route où l'on retrouve de l'asclépiade, nuit directement à la reproduction du monarque, indique Maxime McKinnon, adjoint au développement des partenariats à la Fédération canadienne de la faune. La Fédération, la Fondation David Suzuki et Nature Québec appellent les municipalités et le ministère des Transports à adapter leur calendrier de tonte. Idéalement, il n'y aurait pas de coupe avant le départ des monarques pour leur migration en octobre, a précisé Nature Québec par courriel. Sur les terres fédérales, il est interdit de tuer un papillon monarque ou de lui nuire en vertu de la loi sur les espèces en péril. La tonte et le fauchage devraient être réalisés lorsque les monarques sont absents du Canada, généralement de novembre à mi-mai, précise Environnement et changement climatique Canada sur son site Internet. Consciente qu'une période si étendue peut être restrictive, la Fédération canadienne de la faune aligne ses recommandations sur la période de reproduction de l'espèce, ce qui constitue une approche plus réaliste aux yeux de Vincent Fison, écologiste spatial à la Fédération et co-auteur d'une étude sur le sujet publiée en mai dans le Journal of Insect Conservation. Dans la majeure partie de la province, la saison de reproduction des papillons monarques atteint son apogée entre le 1er juillet et le 15 septembre environ, indique-t-il, avec des variations de quelques semaines selon les régions. Que dit la science? Plusieurs études ont démontré les effets néfastes du fauchage d'asclépiade sur les œufs et les larves de monarques. Mais des interrogations subsistent chez les chercheurs qui les étudient. Le biologiste canadien Tyler Flockhart, qui étudie le déclin de l'espèce, affirme « Il est certain que la tonte peut entraîner la mort directe des œufs et des larves de monarques, si elle a lieu pendant la saison de reproduction. Mais l'effet de cette tonte et son incidence sur les populations de monarques ne sont pas bien connus. » Des études ont par ailleurs démontré que les monarques peuvent paradoxalement réagir positivement à un certain degré de tonte, si elle est faite au moment opportun. Des études ont aussi révélé que les bords de route ne sont pas des milieux hospitaliers pour les insectes en raison du bruit, de la pollution et de la mortalité qui peut résulter des collisions routières. Aucune n'a encore pu démontrer si ces îlots de biodiversité tuent plus les insectes qu'ils ne les favorisent. Il s'agit là d'une question importante qui nécessite beaucoup plus de recherches, tant pour le monarque que pour l'ensemble de la communauté des insectes, indique Vincent Fison. Entre-temps, la restauration des habitats devrait se faire prioritairement sur les routes à faible vitesse et à faible trafic, et non le long des terre-pleins centraux où les insectes peuvent être incités à traverser. C'était « Pour chaque plant qu'on plante, ils en coupent mille », un texte de Valérie Simard paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
Hedgehog. La transparence comme on ne l'a jamais vue. Un texte de Karim Benessaï, paru le 28 août 2023 dans la presse. L'innovation. Un traitement anti-reflet appliqué directement au verre qui le rend presque 100% transparent et hydrophobe. Il permet notamment une augmentation de 12% de la production électrique des panneaux solaires et une élimination des éblouissements en photographie. Qui? La recherche de cette technologie a été effectuée il y a une dizaine d'années par des équipes appartenant aux United States National Laboratories. C'est en 2018 que l'incubateur montréalais Tandem Launch en a acquis les droits et a lancé les démarches pour bâtir une entreprise autour de son exploitation. Cette année-là, on a fondé Hedgehog, inspiré du nom anglais du hérisson Hedgehog, avec Calvin Cheng, Nassim Sarraï et Siamak Kashi. Le premier détient un doctorat en chimie de l'Université de Toronto, la deuxième détient un doctorat en génie électrique et informatique de la National University de Singapour et le troisième, une maîtrise de Polytechnique Montréal en génie physique. L'équipe de cofondateurs ne se connaissaient pas. Nous nous sommes rencontrés à travers des offres d'emploi et l'incubateur Tandem Launch, explique Calvin Cheng, aujourd'hui directeur des opérations d'Hedgehog. Madame Sarraï est la chef de produit et M. Kashi en était le directeur, procédé et fabrication, jusqu'à son départ en mai dernier. Un quatrième partenaire, François Janot, est devenu PDG. Hedgehog compte une dizaine de personnes à ses bureaux de la rue Peel à Montréal. Le produit. Les revêtements anti-reflets classiques ajoutent une couche d'un matériau particulier à la surface du verre. La technologie retenue et commercialisée par Hedgehog va transformer la surface du verre pour créer une couche qui va atténuer la transition de la lumière qui passe de l'air au verre. C'est ce choc du passage entre deux matières qui crée les réflexions et un renvoi partiel de la lumière. Nous nous inspirons de l'œil du papillon nocturne, moth en anglais. Nous appelons notre technologie Moth High 2.0, explique M. Cheng. Ce concept était connu depuis des décennies. Ce n'est que maintenant que nous avons exploité cette capacité. Après son traitement par Hedgehog, le verre acquiert une transparence quasi complète qui augmente le flux de lumière le traversant. Pour un panneau solaire, cela signifie une augmentation de production d'énergie de l'ordre de 12 % sur une base annuelle ou de plus de 25 % au lever et au coucher du soleil quand la lumière frappe en angle. Intégré à un appareil photo ou à une caméra, ce verre réduit la réflexion et annule les effets de halo. Le traitement rend de plus le verre super hydrophobe, ce qui permet de le nettoyer à l'eau sans que des gouttes s'y accrochent. Ça marche pour tous les types de lumière et pour tous les angles, précise M. Cheng. Hedgehog compte des clients industriels pour lesquels elle traite les verres entrant dans la composition de leurs produits, notamment en aérospatial et en photographie. Aucun nom d'entreprise associée n'a été rendu public. Les défis. La pandémie a été difficile pour nombre d'entreprises et particulièrement pour Hedgehog, qui ne pouvait se rabattre sur le télétravail. « Nous sommes une entreprise de matériaux. Notre travail est physique », dit le directeur des opérations. « Nous avons dû arrêter quelques mois. » Comme on a affaire à des entreprises et non à des consommateurs, Hedgehog doit travailler selon les contraintes temporelles qu'on lui impose. « Nous opérons dans leur planification », explique M. Cheng. L'avenir. Hedgehog ne fabrique pas elle-même les pièces de verre, elle les transforme. Notre défi est la croissance de notre capacité manufacturière, précise le directeur. Nous utilisons les installations existantes. Notre défi est d'accéder à des équipements plus grands. Les panneaux solaires et les équipements photographiques sont les deux domaines où les besoins en technologie anti-réflexion sont les plus évidents. Pour une petite compagnie, nous devons nous concentrer sur ces applications, note M. Cheng. Quand ce sera mature, nous allons pouvoir entrer dans de nouveaux marchés. C'était Hedgehog, la transparence comme on ne l'avait jamais vue, un texte de Karim Benessaï, paru le 28 août 2023 dans La Presse.
Astuces pour voyageurs futés, un texte de Brigitte Bruno, paru le 3 septembre 2023 dans le magazine Virage. Partir à l'aventure, c'est génial, surtout si on peut économiser de l'argent. Voici trois astuces pour voyageurs futés. Jour de luxe. Saviez-vous que vous pouvez acheter des laissez-passer de jour pour vous la couler douce dans de luxueux hôtels situés au Canada et à l'étranger? En effet, le temps d'une journée ou d'une soirée, ceux-ci donnent l'occasion de jouir des aménagements et des services offerts par des établissements dont la nuitée n'est pas à la portée de toutes les bourses. Un exemple intéressant, le Club Med de Charlevoix à Rivière-Saint-François. Pour vous donner une idée, une nuitée pour deux personnes en octobre se détaille près de 700 $. Avec un laissez-passer de jour, il en coûte 99 $ par adulte. Piscine, baignoire à remous, cours de sport, repas et boissons à volonté. Pour en savoir plus, visitez les sites en anglais resortpass.com, decationapp.com et daypasses.com. Un aller simple en croisière. Des croisières de relocalisation ou de repositionnement, vous connaissez? Le principe est simple, un aller seulement. On appelle ainsi ces croisières parce que le but est de ramener le navire à son port d'origine ou dans une autre partie du monde pour débuter sa nouvelle saison. Parmi leurs avantages, le prix des cabines est à la baisse. Le navire est moins bondé, elle compte moins d'escales que les croisières régulières. On y passe donc plus de temps en mer. Aimez-vous lire, nager, écrire? Un exemple, une traversée de 15 jours en avril 2024 de Miami à Barcelone. Ce voyage de 10 jours en mer sur le Scarlet Lady et 4 escales se vendait récemment 1864 USD par couple en cabine avec balcon. Hébergement, repas pour boire et Wi-Fi inclus. Leur principal désavantage. Il faut se rendre au port de départ, puis revenir chez soi de la destination par voies aériennes ou terrestres. À vos calculatrices, votre agent de voyage vous aidera à naviguer dans ces eaux. La tentation de la van life. À l'instar des croisières, il existe des entreprises de relocalisation de véhicules récréatifs, VR. Vous aimeriez expérimenter? Il suffit de cueillir le véhicule à un endroit donné pour le laisser dans un délai déterminé à la destination choisie par le locateur. Par exemple, vous prenez le volant d'un VR à Vancouver pour le livrer à Toronto. On vous laisse 10 jours pour traverser les Rocheuses à un coût de location de 25 $ par jour. Un nombre préétabli de kilomètres sans frais est octroyé et l'excédent est chargé au prix habituel. À cela s'ajoute le coût des assurances, de l'essence, du transport pour se rendre à Vancouver, puis celui du retour vers votre domicile. On peut expérimenter le concept chez imova.com, imova.com, transfercarus.com ou canadream.com, tous en anglais seulement. C'était Astuces pour voyageurs futés, un texte de Brigitte Bruno, paru le 3 septembre 2023 dans le magazine Virage.
Cozy Oxford Fantasy. Un texte de Caroline Gendron, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. La plupart des amateurs de lecture s'entendent pour dire que, lorsque la température est d'humeur orageuse, c'est le moment idéal pour ouvrir un nouveau livre et s'y plonger. L'atmosphère relaxante, créée par les gouttes qui battent presque tendrement notre toit, permet de s'évader dans les contrées les plus lointaines, et ce, dans le confort d'un fauteuil moelleux. Ce sentiment, une chaleur mêlée d'une certaine affliction pluvieuse, est intégré de façon charmante dans certains romans qui entrent dans une catégorie que je nomme « Cozy Oxford Fantasy », c'est-à-dire des romans où l'environnement quelque peu maussade de l'Angleterre me rappelle ces journées parfaites pour s'aventurer dans une nouvelle histoire où la magie nous surprend à chaque page. Trois autrices en particulier m'ont permis de goûter cette pluie du bout des lèvres. La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft, Castlemore, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, Sabrin, et Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, Olympe. Dans La chasseuse et l'alchimiste, Alison Saft nous entraîne dans une chasse haletante où, pour sauver ce qui lui est cher, Evelyne doit tuer le Hala, créature mythique qui n'est rien de moins qu'un dieu. Mais pour ce faire, elle a besoin des capacités d'alchimiste de Vaes, jeune homme rejeté de tous les maîtres d'alchimie malgré son talent. Son dernier espoir est de devenir l'apprenti de la mère excentrique d'Evelyne qui quitte régulièrement sa fille des mois durant pour poursuivre des recherches énigmatiques. Réunis par le destin plutôt que par choix, ils doivent trouver le moyen d'allier leurs forces et surtout leurs faiblesses pour parvenir à leurs fins respectives. Le personnage d'Evelyne inspire au lecteur la beauté sauvage de la lande anglaise, fouettée par les intempéries, alors que Vaes représente plutôt le flegme britannique. Ensemble, ils évoluent dans un tableau gris de tempête et pourtant, leurs aventures n'ont rien de morose. La talentueuse autrice nous transporte dans la campagne européenne avec ce récit qui se dévore en quelques heures seulement. Heather Fawcett, quant à elle, met en scène une protagoniste renfrognée, Emily, qui préfère de loin le travail de terrain, ensevelie sous la terre et la mousse pour observer les fées à la compagnie humaine. Dans le village nordique d'Afsvik, Elle s'attelle à la tâche pour en apprendre plus sur les recluses, les faits les moins connus des experts. Mais ce faisant, elle tombe dans plusieurs pièges tendus par ces dernières, tous plus dignes les uns que les autres des vieilles légendes anglaises qui ne cessent de nous mettre en garde contre leur espèce. Entourée par la neige, le froid, une bonne dose de sarcasme et son rival, le professeur Wendell Bumblebee, Emily est l'image parfaite d'une lectrice frustrée de se faire déranger à chaque détour. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde est une aventure à l'humour tout à fait anglais, où l'imperturbabilité presque mutine d'Emily, associée à l'exubérance de Wendell, nous fait découvrir le portrait d'une héroïne atypique mais décidément charmante. Finalement, Ada Vivalda nous offre, avec Porcelaine sous les ruines, une romance des plus douces, parfumée par des arômes de thé bu dans les plus délicates porcelaines. Alba, la jeune protagoniste, cherche à protéger l'archipel d'Hibernia, une oasis menacée de tous qu'il a accueillie des siècles après qu'elle eut été bannie par les génies. Lorsque l'État Nalcor, émissaire d'un archipel voisin, n'hésite pas à user de son charme pour tenter de percer le secret qui l'entoure. La gardienne de l'archipel doit redoubler de ruses pour préserver les secrets qui ont permis à ce havre battu par la pluie de prospérer malgré la misère environnante. Le doux battement d'une bruine chagrine, le voile de la brume, la douceur d'un amour incertain, tout cela nous berce pour nous faire vivre une histoire d'amour délicieusement mélancolique. Cette œuvre se lit avec curiosité, passion et avidité. Le Cozy Oxford Fantasy se résume donc, plus ou moins, à cette image stéréotypée de l'Angleterre, où les orages, l'humidité, le froid et le cynisme nous attendent. Pourtant, ces trois autrices ont su m'inspirer un tout autre paysage où le gris des nuages et le froid de la pluie ne m'ont pas du tout découragé, mais m'ont plutôt enveloppé de ces doux bras tranquilles qui forcent au calme les esprits les plus tumultueux. Accompagnée par les mots d'Alison Saft, d'Heather Fawcett et d'Ada Vivalda, j'ai été totalement séduite par le célèbre charme anglais, prête à savourer ces jours d'automne, un livre de Cozy Oxford Fantasy à la main. Qui sait? La prochaine journée grise vous permettra peut-être de vous échapper également vers l'Angleterre, ce pays au caractère aussi mystérieux que fascinant. C'était Cozy Oxford Fantasy, un texte de Caroline Gendron, paru le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.